Mesdames, messieurs, chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Libre Journal des Économistes, l'émission ultra-néo-turbo-libérale sauvage de Radio Courtoisie. Nous allons voir d'ailleurs aujourd'hui si mon invité Bertrand Piccard, alors Bertrand Piccard c'est pas l'aérostier, donc c'est Bertrand Piccard avec un seul C, entrepreneur et fondateur d'une revue Civilisation, nous allons voir si... S'il s'inscrit dans la veine ultra-néo-turbo-libérale sauvage, sans doute pas tout à fait, puisque sa revue promet d'être à la fois libérale et conservatrice, ce sera un de nos sujets de discussion. Et le thème de l'émission d'aujourd'hui est en français, un rapport qualité-prix qui s'effondre, et qui est un petit peu en phase avec votre premier numéro, qui a pour titre « Coup d'État », je crois. Coup, évidemment, C-O-U-T, enfin C-O-U, accent circonflexe T, d'ailleurs. Voilà, donc sur le coup de l'État français. Commençons comme toujours par les actualités libérales. Il n'y en a d'ailleurs pas beaucoup, sinon qu'il y a le documentaire Des écoles pas comme les autres qui est co-réalisé, présenté par Lisa Yersig, suite et fin, avec les quatrième et cinquième épisodes qui vont être diffusés vendredi 4 septembre sur C-Star un peu après 21h. Et donc, pour ceux qui ont vu les trois premiers épisodes, c'est passionnant parce qu'on voit des écoles hors contrat, des écoles libres. Voilà. Et donc, on voit des écoles libres, vraiment libres. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne dit plus, on ne parle plus des écoles privées sous contrat. Sont tellement contraintes, on va dire, par le rectorat, l'éducation nationale, etc., qu'elles ne sont plus très libres. Donc là, voilà, il s'agit vraiment d'écoles hors contrat, et elles passent en revue cinq écoles qui ont été suivies par une équipe de télévision, J'entends Production, pendant une année entière. Et alors, c'est passionnant, parce qu'il y a des cinq établissements très très différents. Il y a le cours Clovis pour les décrocheurs, qui est dans l'Aisne à l'affaire. Il y a le cours Candelier, Madame Candelier, qui là pour le coup essaye de faire une éducation un peu à l'ancienne, voilà, de l'instruction à l'ancienne. Il y a le CEREN pour les 10 tout, 10 dyslexie, 10 praxie, 10 calculis, etc., etc. L'école Kaléidoscope bilingue à Toulouse, aussi, enfin près de Toulouse, dans le banlieue de Toulouse, et puis Atis, une école pour les enfants atteints du trouble du spectre autistique, et on voit les progrès qu'ils font. Alors c'est très intéressant, ce sont des questions qui sont très peu traitées ou très mal traitées par l'éducation nationale, et on se rend compte d'ailleurs qu'elles ne pourraient pas l'être finalement. Enfin, on voit bien à quel point l'éducation est spécifique et ne pourrait pas être décidé par les 3000 fonctionnaires de la rue de Grenelle à Paris. Donc voilà, c'est vraiment... moi, j'ai trouvé ça passionnant. Je pense qu'on peut voir les trois premiers épisodes en revisionnage. Voilà, et donc je le redis, c'est vendredi sur C-Star, un peu après 21h. Voilà, et puis par ailleurs, comme j'ai eu Alexandre Jardin comme invité récemment, je vous souhaite, je vous recommande de télécharger l'application Référendum Citoyen. Je trouve que, comme je l'ai dit lors de l'émission avec Alexandre Jardin, je trouve cette initiative extraordinaire, pilotée d'ailleurs par le fils d'Alexandre Jardin, Robinson Jardin. Je rappelle qu'ils font ça à titre purement bénévole, mais qu'ils ont réussi à impliquer des informaticiens de tous les pays, et particulièrement les pays, des pays très totalitaires, Iran, etc., enfin, où ils trouvent des informaticiens qui sont passionnés par cette idée. Je rappelle qu'on peut voter, à chaque fois qu'on vote, il suffit de présenter une pièce d'identité, et ça permet d'être absolument sûr qu'une personne ne vote qu'une seule fois, voilà, une pièce d'identité française, et vous pouvez voter à ce référendum citoyen. C'est une très belle appli, et peut-être que le sujet de l'émission était d'ailleurs « La démocratie reviendra-t-elle par la fenêtre ?» ou « Entrera-t-elle par la fenêtre ?» Voilà, et effectivement, c'est peut-être un excellent moyen que... Je sais que les téléchargements continuent, mais j'encourage évidemment tous les auditeurs à télécharger cette application Référendum Citoyen. Voilà. Venons-en à notre sujet du jour. Donc, État français, un rapport qualité-prix qui s'effondre. Et puis, bonjour Bertrand Piccard.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur. Racontez-nous peut-être un petit peu votre parcours d'entrepreneur pour commencer. Peut-être pas commencer à la naissance, je veux dire, peut-être aux études d'ailleurs, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a amené à devenir entrepreneur et comment...
Bon, merci de me recevoir déjà, oui, je peux vous raconter mon parcours, qui est un parcours d'entrepreneur qui a, depuis petit, voulu être entrepreneur. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Voilà. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, Mon père était entrepreneur.
Ah oui.
Bon, donc j'avais sans doute ça dans le sang. J'ai commencé ma carrière en banque d'affaires.
Oui, oui.
Chez Rothschild à Londres, parce que j'avais pas d'idée, et pour monter une boîte, c'est mieux d'avoir une idée, et, oui. Et que je trouvais que c'était une bonne formation. J'ai passé des années exceptionnelles chez Rothschild à faire du conseil pour les chefs d'entreprise qui voulaient vendre leur entreprise, en fusion-acquisition, on appelle ça.
Oui, oui, bien sûr. Oui.
Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une idée qui a été de lancer une entreprise qui s'appelle Natural Grass. Qui est devenu le leader européen, bientôt mondial, de la construction et de la maintenance de terrains de sport.
Donc c'est
un domaine assez original. C'est nous qui avons construit les pelouses des plus grands stades en Europe, que ce soit le Real Madrid, Arsenal. On construit à la fois les pelouses des stades, les centres d'entraînement,
oui.
Puis on s'est étendu à d'autres sports. On fait les terrains de golf. Le tennis, le rugby évidemment.
Alors le tennis plutôt au Wimbledon, c'est-à-dire plutôt
voilà,
du tennis sur herbe.
On ne sait pas encore faire sur terre battue.
D'accord,
et pour ça, on a développé une technologie innovante qui s'appelle les pelouses hybrides. Donc
d'accord.
À ne surtout pas confondre avec les pelouses synthétiques.
Oui.
Les pelouses hybrides, c'est des pelouses naturelles renforcées.
Oui.
Donc en fait, on augmente la capacité de résistance des pelouses naturelles et en même temps, on rend les terrains plus propice au jeu, à tel point que la FIFA a rendu notre technologie obligatoire. Alors moi, je suis très libéral, mais ça, je trouve que c'est une bonne réglementation qu'il faut garder.
Est-ce que la FIFA est un organisme privé?
La FIFA est un organisme... Oui, on ne sait pas trop.
C'est...
La FIFA
trop,
est un organisme très, très particulier,
voilà.
Et je ne rentrerai pas dans le sujet.
Ouais, mais on ne veut pas vous fâcher avec vos clients.
Bon. Voilà, c'est quand même un gros client.
D'accord,
mais
ouais,
voilà, donc cette entreprise marche très bien. Et nous, on a toujours eu un axe assez fort environnemental chez Natural Grass. Et notamment, on vient de sortir une nouvelle technologie qui s'appelle Aquaflow et qui permet que nos terrains consomment beaucoup moins d'eau que les terrains traditionnels.
Ah, très bien.
Et donc,
l'innovation continue.
Oui. Une innovation, ouais, voilà, ça nous a mis 10 ans pour sortir cette technologie. Mais le résultat est assez spectaculaire. On l'a installé au Stade Jean-Bouin, notamment pour le Paris FC. On l'a installé au Maroc dans sur une dizaine de terrains. Et les résultats sont tellement impressionnants que la semaine dernière, il y avait une pleine page sur nous dans l'équipe. Donc, on était assez fiers de ça pour raconter les succès de cette technologie qu'on va développer dans le monde entier.
Ah, très bien, bravo.
Voilà.
On peut jouer combien d'heures par semaine sur une herbe Natural Grass?
Avec nos technologies, on peut multiplier par 4, 5 le nombre d'heures de jeu. Et même, j'ai envie de dire que le plus important, c'est que sur une pelouse naturelle traditionnelle, s'il y a un orage la veille ou pendant le match peut carrément être annulé. D'ailleurs, l'origine de mon entreprise, ça a été un match annulé au Stade de France. J'avais rencontré le patron du Stade de France quelques jours avant. Je lui avais parlé de cette idée de technologie que j'avais en tête, mais à l'époque, j'étais encore banquier d'affaires. Vous voyez, je n'avais pas encore créé ma boîte. Je lui ai parlé de ça. Le rendez-vous s'est très bien passé. On s'est serré la main. Et puis, je suis rentré à Londres où je travaillais en me disant « ça ne donnera jamais rien
».
Et puis, une semaine plus tard... Moi je suis un fan de rugby, donc je regardais France-Irlande et l'arbitre est rentré sur la pelouse et a interdit la pelouse qu'il a considérée dangereuse.
Oui.
Et donc ça a fait 90 000 personnes qui ont dû rentrer chez eux.
Ah oui, bien sûr,
ça a créé une situation très coûteuse pour le Stade de France. Et à l'époque, Fillon, Premier ministre, avait convoqué le patron du Stade de France dans son bureau pour lui dire qu'il n'était vraiment pas du tout content de cette situation, qui était une honte pour le pays. Et je l'ai su des années plus tard, mais qu'est-ce qu'il a fait le patron du Stade de France? Il a dit « Monsieur le Premier ministre, on est en train de travailler sur le sujet » et il a présenté mes slides en fait.
Voilà. Vos diapositives.
Donc,
quelle chance.
Mes diapositives, pardon.
Tout va bien.
Ce qui s'est passé, c'est que le lundi, il m'a appelé, il m'a demandé de revenir pour qu'on discute. Donc je suis revenu à Paris, j'ai pris mon Eurostar, je suis revenu à Paris et... Et il m'a dit, Bertrand, combien il faut pour lancer ton entreprise?
Oui.
Et bon, j'en avais aucune idée en vrai.
Donc,
il a fallu sortir un chiffre très rapide.
Dit 4 millions de dollars, c'est ça?
Non, j'ai dit 1 million, j'étais plus raisonnable.
D'accord,
Donc j'ai proposé 1 million d'euros, j'ai senti qu'il était prêt à accepter, donc je me suis dit, mince, j'aurais dû dire 4 justement.
Voilà. Bon.
Et puis finalement, on est arrivé à un accord de co-développement ensemble avec le Stade de France et... Et voilà, j'ai démissionné de Rothschild, j'ai créé mon entreprise, 3-4 ans de R&D, de recherche et développement.
Oui.
C'était une aventure extraordinaire. Et aujourd'hui, on est, On est 350 personnes, on est devenu le leader dans ce domaine.
Le numéro 1.
Le numéro 1, voilà. Ouais, ouais. Je vais essayer d'éviter les anglicismes, excusez-moi,
bien,
après quelques années en Angleterre, c'est difficile. Et c'est une très belle, histoire entrepreneuriale.
Entrepreneuriale, oui, bien sûr, oui, d'accord.
Et donc, pour continuer le parcours, pour vous expliquer un peu comment j'en suis arrivé à Civilisation, cette revue que je lance. Mon entreprise marchait très bien. Et à un moment, mes préoccupations ont commencé un tout petit peu à changer. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour rendre aussi à ce pays? Parce que c'est grâce à la France, en grande partie, que j'ai réussi à développer cette technologie. Il a fallu aller chercher le savoir-faire d'ingénieurs exceptionnels qui m'ont rejoint. Il a fallu pouvoir bénéficier aussi, tout simplement, de l'image de la France à l'international. Quand on va vendre à l'international, la France a une image d'un pays qui est capable de produire des choses de grande qualité. Vous voyez, on a cette image un peu du luxe et du beau et du bien fait.
Bien sûr, oui. Et merci Bernard Arnault, d'ailleurs, de nous donner cette image pour une large part.
Exactement. Et on se rend compte, d'ailleurs, quand on voyage et quand on vend et quand on crée des filiales à l'étranger, à quel point les Français sont toujours regardés avec beaucoup de bienveillance. Le reste, on s'aime finalement beaucoup moins que le reste du monde nous aime.
D'accord.
On a une sorte de complexe qui s'est développé ces dernières années, mais on est attendu, en fait, à l'étranger.
Oui, oui.
Et tout ça pour dire que j'ai voulu rendre à ce pays. Et puis, aussi, peut-être, je viens d'une famille de résistants, qui, à un moment, ont su prendre des risques pour leur vie, pour défendre leur pays. Et à table, quand j'écoutais mes parents, mes grands-parents, j'entendais que ça. Peut-être aussi un peu un esprit de résistance. Quand je vois tous mes amis entrepreneurs qui partent, qui quittent le pays aujourd'hui, qui sont désespérés, j'ai eu envie de monter un projet qui redonne de l'espoir aux gens et qui montre que ce pays est loin d'être foutu.
D'accord.
Et donc c'est le projet Civilisation.
Très bien. J'ai quand même une question. Comment avez-vous fait pour promettre à ce directeur de stade du Stade de France que vous pouviez améliorer sa pelouse alors que la technique n'était pas encore développée, ou vous avez entendu un ingénieur agronome vous en parler?
C'est tout l'art de la persuasion, de la vente. C'est vrai qu'à l'époque j'avais uniquement une présentation de si on arrive à développer cette technologie, voilà l'impact sur vos finances. Oui. Et il fallait qu'ils nous croient quelque part sur notre capacité à développer cette technologie. Maintenant, moi, je suis le vilain petit canard d'une famille d'ingénieurs. Et mon père, notamment, est un inventeur, un très brillant mathématicien, physicien et agronome. Il est par ailleurs botaniste. Et donc, cette idée que je lui ai proposée est née de nos échanges et notamment d'une idée de génie qu'il a eue, de développer un système qui permettrait de renforcer le sol dans lequel sont enracinées les plantes. Donc d'accord. Ça, c'est lui qui a eu cette idée, il a breveté la technologie, et moi, j'ai développé la boîte et j'ai commercialisé son idée. Donc voilà l'origine, et je pense que le patron du Stade de France, à cette époque, a compris ce qu'on voulait faire et s'est dit que c'était ça qu'il fallait pour son stade.
D'accord, très bien, parfait. Bon. Eh bien, alors, pour ce qui est de Civilisation, alors peut-être présenter un petit peu, alors libéral et conservatrice, on l'a dit, la revue, la pagination, c'est quoi la périodicité, c'est 4 numéros par an, c'est ça, oui, je crois.
Donc Civilisation, c'est un trimestriel.
Oui, oui.
De 160 pages.
Donc c'est un gros, c'est plutôt dans la veine des commentaires, l'esprit, le débat, etc.
Enfin, exactement. D'ailleurs, Alain Figuel-Crode, qui est à notre comité scientifique, a eu la gentillesse de dire qu'il pensait que Civilisation serait le successeur de toutes ces grandes revues, commentaires, le débat, esprit. Bon. Donc on est en effet dans cette veine-là. Alors c'est... c'est la forme est un peu plus contemporaine, un peu plus facile d'accès.
Oui.
On va quand même jouer avec des codes d'aujourd'hui.
Oui.
Les textes sont des textes de grande qualité, longs, qui ne traitent pas de l'actualité, mais qui invitent plutôt à la réflexion au temps long. Oui. Moi, mon projet, c'était je me disais, le problème de ce pays, en grande partie, c'est que ces élites, qui sont de très grande qualité, qui travaillent énormément, qui se donnent énormément, pensent moins qu'avant. Je pense que la France, pendant des années, peut-être des siècles, était un pays où l'on pensait énormément, et on a un peu l'impression, notamment à droite, d'un effondrement de la pensée, d'une disparition des idées, d'une américanisation même de notre manière de penser. Et l'idée, c'est justement de donner la possibilité à ces élites de se reconnecter à, non pas leur téléphone, à la lecture et à cette réflexion. Je pense que les mails, les téléphones portables, les ordinateurs, les messageries électroniques agressent énormément la capacité d'attention de l'être humain. On est à un moment où je pense que l'homme n'était pas fait pour ça. Nous, notre idée, c'est de redonner du temps long. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a appelé civilisation.
D'accord, alors civilisation sans S. C'est civilisation, la civilisation sans S. Et non voilà. Pas une découverte des civilisations.
Exactement. La civilisation et l'action de la civilisation. Finalement, la civilisation, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui permet, dans la cité, aux hommes de vivre ensemble, de dépasser le risque de violence, de chasser la haine de la cité, pour leur permettre de faire un projet commun, pour leur permettre de faire des choses grandes et belles ensemble.
Et de débattre, entre autres.
Passe par le débat.
Voilà, bien sûr. Voilà. Oui. La démocratie que nous promouvons souvent. Donc, puisque vous êtes entrepreneur, est-ce que cette revue, vous appelez ça une revue, un magazine ?
Oui, on appelle ça une revue.
Revue. Est-ce que cette revue a pour ambition d'être rentable ?
Alors, moi, je suis entrepreneur et j'ai... Je suis à la fois passionné par ce projet du point de vue du contenu, mais je sais qu'un entrepreneur qui tombe amoureux de son, de son produit se met à perdre beaucoup d'argent et c'est pas durable. Donc, j'ai décidé d'une certaine somme que j'investissais dans le projet et je pense que cette somme sera probablement à fond perdu. Je ne fais pas ça pour m'enrichir particulièrement.
D'accord.
Mais je veux que la revue, assez rapidement, soit autoportante et arriver au point mort le plus rapidement possible. Je pense que c'est faisable. Et de toute façon, si on veut s'inscrire dans le temps long, il faut arriver à faire cela. Pourtant, on a fait un choix un peu particulier, c'est qu'on n'a ni subvention, donc on n'a demandé aucune subvention, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de subventions à la presse qui sont disponibles. Et quand on est une revue libérale, demander des subventions, ça serait quand même un peu malvenu.
D'accord.
Et par ailleurs, on n'a aucune publicité, parce qu'on veut garder une grande indépendance, et que, de toute façon, le marché de la publicité s'étant effondré, ça ne rapporte pas grand-chose, et ça limite votre capacité à vous exprimer.
Et comme je l'ai écrit dans un article il y a une douzaine d'années, un article dont le nom est « Vendus et invendus », on peut être beaucoup plus rentable sans publicité qu'avec de la publicité. C'est un publicitaire qui le dit.
Contre la publicité.
Comme exemple le Flûte Glaciale ou le Canard Enchaîné, qui sont pas forcément de droite, bien sûr, mais Canard Enchaîné, je crois qu'ils ont 3 années de trésorerie devant eux. C'est-à-dire, ils peuvent donner les numéros pendant 3 ans.
Ouais.
Ils sont encore équilibrés. Voilà, c'est pour vous dire. Et pourtant, ils n'accueillent pas de publicité, etc.
Ouais. Enfin, bref. Voilà, alors le format que nous on a décidé de promouvoir est un format qui est un peu plus facile à mettre à l'équilibre que d'autres formats parce que c'est un trimestriel. Donc on n'a pas une énorme équipe derrière nous en continu, mais néanmoins ça nécessite des fonds assez substantiels. Alors on est très positivement surpris par le succès qu'a eu notre campagne de prévente qui est en cours jusqu'à la fin du mois de septembre.
Oui.
Donc jusqu'à la fin du mois de septembre, les gens peuvent aller en ligne, s'abonner et ils recevront la revue chez eux. Et ça leur coûtera moins cher. Il y a une réduction en fait en prévente. Et par ailleurs, ils auront accès à tous les articles en ligne avant tout le monde.
D'accord.
Et donc là, on est vraiment très positivement surpris. On sent que on a peut-être touché quelque chose qui était attendu parce que non seulement les gens s'abonnent, mais en plus ils font des dons.
Ah oui.
Et on reçoit énormément de dons.
Ah, très bien, oui.
Et donc, on a vraiment l'impression qu'on est un peu en train de créer quelque chose qui est presque au-delà d'une revue, presque un mouvement, vous voyez.
D'accord, oui, oui.
Parce que nous, notre conviction est très forte.
Oui.
Et notre conviction, c'est que les libéraux, le libéralisme, est la seule solution pour sortir notre pays.
On est
de
bien d'accord, oui. Et si je ne vous contredirais pas, oui.
je m'en doute. Mais, mais on pense aussi que les libéraux doivent impérativement s'unir aux conservateurs.
Oui.
Pour prendre le pouvoir, et que c'est une anomalie qu'en France, les libéraux et les conservateurs ne soient pas dans le même camp.
D'accord.
C'est une anomalie que ceux qui veulent la liberté et ceux qui veulent l'ordre ne soient pas dans le même camp, les deux étant très fortement intriqués. Et en réalité, tous les grands libéraux de l'histoire ont été des conservateurs.
Peut-être pas quand même.
Presque.
Non, enfin, ça dépend.
On peut trouver des exceptions.
Ça dépend aussi de ce qu'on appelle des libéraux. Et puis, de toute façon, c'est deux dimensions qui sont pas tout à fait sur le même terrain. C'est-à-dire, je crois qu'on peut être, conservateur à titre personnel. C'est une position. Je suis conservateur à titre personnel. Enfin, disons, je suis catholique. Je ne vais pas dans les bordels et je ne me drogue pas, etc. Enfin, bref, peu importe. Mais voilà, ça m'empêche pas d'être libéral, c'est-à-dire d'accepter. D'accepter que les autres fassent comme bon leur semble. C'est d'ailleurs une position qu'on retrouve, par exemple, sur l'école. Il y a beaucoup de conservateurs qui ont énormément de mal à lâcher l'école. Cette idée que les parents, un petit peu, là, comme je parlais des épisodes là, co-réalisés par Lisa Hirsig, on montre 5 écoles comme ça qui sont très très diverses. Alors il y a évidemment la diversité est encore plus grande, surtout si on intègre les Montessori, énormément de types d'écoles différentes. Les socialistes évidemment veulent une seule école, ne veulent voir qu'une seule tête et sont obsédés, dégoûtés à l'idée que des gens puissent instruire en famille ou puissent avoir des écoles particulières, etc., etc. Mais les conservateurs aussi, finalement, très souvent, si vous regardez dans le spectre politique, les conservateurs n'ont qu'une seule envie, c'est de remettre eux-mêmes les mains dans la confiture, on va dire. Un petit peu d'ailleurs comme ce qui se passe avec France Télévisions, l'énorme secteur audiovisuel public en France, c'est qu'on a, je sais pas combien, enfin plus de 10 chaînes de télé et une centaine de radios si on compte le Move et le machin, Radio Bleu, tout ce qu'on veut. Personne n'arrive à privatiser parce que chaque fois qu'il y en a un qui arrive là, il est ravi de mettre tous ses potes à la tête des antennes, il est ravi, etc. Avec toujours cette vision pour les conservateurs que le jour où ils tiendront l'école, on n'enseignera plus Marx en économie, on lira Ernest Renan. Je ne suis pas un connaisseur d'Ernest Renan, mais j'entends à chaque fois parler d'Ernest Renan chez les patriotes libéraux, etc. Conservateurs, pardon.
Ce qu'on veut, c'est redéfinir les termes quand même, parce que je pense que dans le mot conservateur, il y a beaucoup de choses qui sont mises et qui sont assez inexactes. Et pareil sous le terme libéral, il y a beaucoup de choses qui sont inexactes.
Donc,
l'idée de la revue, avant tout, c'est de redéfinir les termes. Et c'est pour ça que j'ai choisi comme directrice de la rédaction une femme exceptionnelle qui s'appelle Laetitia Schroch-Bonnard.
Oui.
C'est en lisant son livre La Gratitude, que je recommande à tous les auditeurs, que je me suis dit qu'il fallait que ça soit elle.
Oui.
Et dans La Gratitude, elle raconte d'abord le parcours de sa vie, d'une jeune femme qui est née plutôt dans un milieu de gauche, athée, et qui progressivement est devenue... de droite.
Oui, oui.
Alors, quand elle était jeune, elle a eu comme prof Michéa au lycée.
Oui, d'accord.
Voilà, donc c'était très à gauche. Et puis, petit à petit, elle a évolué. Et c'est elle qui a notamment traduit un auteur anglais, un philosophe anglais exceptionnel. Je ne sais pas si vous en parlez de temps en temps sur cette antenne, qui s'appelle Roger Scruton.
Donc, un philosophe. Je connais de nom, mais non, je ne suis pas.
Un philosophe libéral conservateur anglais qui est mort il y a quelques années. Et qui, pour moi, a cette capacité à expliquer en quoi, d'abord, le libéralisme et le conservatisme sont naturellement liés, mais aussi toute la différence qu'il y a entre, d'un côté, les conservateurs et les réactionnaires, et de l'autre, toute la différence qu'il y a entre les libéraux et les globalistes ou les mondialistes.
Oui, d'accord, oui.
Et souvent, les termes sont confondus. On confond souvent les conservateurs avec des réactionnaires. Or, les conservateurs ne sont pas du tout tournés vers un passé mythique
oui.
Vers lequel ils aimeraient revenir,
oui.
Mais ils sont au contraire tournés vers l'avenir, plutôt favorables à l'innovation.
Ah,
ils
oui.
veulent juste qu'on touche pas à ce qui fonctionne et qu'on change ce qui ne fonctionne pas.
Donc pour vous, il y a identité quasiment entre conservatisme et libéralisme.
Il y a pas une identité parfaite, parce que ah, ça, oui. ça serait inexact. Mais il y a une convergence de pensée qui est extrêmement forte.
Ouais, ouais.
Et d'ailleurs, c'est simple. Si vous voulez, pour pouvoir être libre,
ouais.
on a besoin d'ordre.
Ouais, ouais.
Certes. Donc,
oui, oui,
et,
d'accord,
et,
oui.
Et, ouais. et pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait de la liberté. Ça, c'est plus
ouais.
Compliqué moins, à comprendre, mais c'est très bien expliqué par Hayek,
ouais.
qui explique que finalement... Le seul ordre qui fonctionne vraiment, c'est l'ordre spontané.
Ouais, oui.
C'est l'ordre qui se fait par l'intermédiaire de la liberté. Un exemple tout simple, si on sort de ce studio, on est sûr de manière certaine qu'on va trouver, par exemple, un café ouvert.
Oui, bien sûr.
Et qu'on pourra prendre
oui,
un café oui, à moins de 10
oui,
minutes.
Oui,
okay
bien sûr, oui, oui.
Et que ce café sera ouvert. Pourquoi on en est certain? C'est que si il n'y en avait pas, ça veut dire qu'il y a une possibilité de marché et qu'il y a un besoin et que quelqu'un l'aurait créé.
Oui, oui, bien sûr, bien
et
sûr.
Et c'est
sûr,
pas parce
sûr.
Que la ville de Paris a bien dit sûr. Il faut mettre des cafés
oui,
tous les temps
oui,
à telle distance. Mais bon.
Non, bien sûr.
Donc,
okay. Donc un ordre spontané se crée, disons, qui permet à tout le monde de prendre un café assez facilement, pas trop loin de chez
exactement.
Lui. Quand il habite au moins dans une grande ville, on va dire.
Et donc c'est le seul ordre vraiment valable et qui fonctionne. Donc,
oui, bien sûr.
Bon, c'est un petit exemple pour vous montrer
non,
que,
tout à fait, oui.
contrairement à ce que l'on peut croire,
oui.
alors, dans les pays anglo-saxons, en Angleterre notamment,
oui.
C'est une évidence, ce que oui. je suis en train de dire. C'est-à-dire que les libéraux et les conservateurs sont ensemble depuis toujours.
Ah,
mais
ils sont
en France,
ensemble depuis Margaret Thatcher. Vous n'avez pas connu, peut-être vous êtes trop jeune, l'époque de James Callaghan avant l'arrivée de Margaret Thatcher. L'Angleterre était un pays socialiste à l'époque. Enfin,
bien sûr, oui. Oui,
vous avez l'air de dire que c'est...
Non, je parle des penseurs, là. Je parle
ah,
pas
oui,
forcément.
D'accord, ouais. oui, d'accord, ouais. d'accord.
Non,
parce que sinon, c'est vrai que postérieurement au travail fait par Margaret Thatcher durant ses presque 3 mandats, les travaillistes anglais sont devenus finalement très libéraux, en tout cas plus libéraux que souvent notre droite. Hein, donc,
oui, ils sont.
Alors
ils
ensuite, avec le temps, ça s'émousse.
Ouais.
Mais en tout cas,
ouais.
Immédiatement après, oui, ça a été. Ouais.
Mais bon, il est évident ouais. qu'il y a des libéraux de gauche, par exemple.
Ouais, ouais.
Ça, je le nie absolument pas. Moi, la seule chose que je dis, c'est que les deux se soutiennent et sont nécessaires l'un à l'autre pour pouvoir faire fonctionner un pays. C'est-à-dire
d'accord.
que si l'un manque à l'autre, très rapidement, ça dérive et on n'arrive pas à faire fonctionner le pays. Voilà.
Alors, vous êtes à l'écoute du Libre Journal des Économistes sur Radio Courtoisie. Mon invité est Bertrand Piccard, entrepreneur, fondateur de la revue Civilisation. Le thème de notre émission du jour est « État français, un rapport qualité-prix qui s'effondre ». Je ne sais pas d'ailleurs si nous aurons le temps de le traiter, mais enfin, de toute façon, si on en parle de toute façon, toujours un petit peu... voilà. Et vous n'hésitez pas évidemment à nous faire part de vos questions et commentaires. Nous serons ravis de les intégrer si vous nous écoutez pendant la tranche midi 13h30 ce mercredi 2 septembre. Voilà, on sera ravis de lire vos commentaires et questions à l'antenne. Oui, alors vous dites il y a des libéraux de gauche. Je crois que le libéralisme, effectivement, n'est ni de gauche ni de droite. Le libéralisme se retrouve toujours dans le camp. Qui le détestent le moins. Et alors, il se trouve que, comme la gauche se définit réellement par l'État-providence depuis l'après-guerre, on va dire, le libéralisme est rejeté à droite, dans des sociétés monarchiques, impériales, trop conservatrices, on va dire. Les libéraux se retrouvent à gauche parce qu'ils sont contre l'esclavage, pour la liberté de la presse, etc. Enfin bref, bon, c'est ça. C'est une situation qu'on ne connaît plus parce que depuis ces 70 dernières années, disons, la gauche est tellement attachée à cet état-providence voilà, que les libéraux se retrouvent rejetés de fait à droite. Si on regarde, par exemple, la situation française, les libéraux sont nulle part. Enfin, il y a David Lisnard, mais enfin, il a beaucoup de mal... Hélas, a décollé dans les sondages, enfin, je veux dire, on le voit à peine. Et si vous prenez, je dirais, si nous mettons François Fillon du côté des libéraux, depuis François Fillon, il n'y a eu personne à droite, jusqu'à David Lisnard, disons, pour incarner ce courant, hein, si on garde les...
Je suis pas totalement d'accord avec vous.
Oui, très bien, allez-y.
Moi,
oui,
je pense que
on est là pour discuter.
Bon, évidemment, David Lisnard, c'est une figure... très clair d'une forme d'ailleurs de libéral conservatisme.
Okay. Oui, oui, oui.
Et qu'il revendique.
Bien sûr.
Mais si on regarde dans quasiment tous les partis aujourd'hui, vous pouvez trouver des figures plutôt libérales. Chez Édouard Philippe, il y a Morancet, la présidente des régions Pays de la Loire, qui est, qui est une vraie libérale, qui est ancienne chef d'entreprise.
Pourquoi pas.
Bon. Voilà, c'est pas.
Je suis un peu dubitatif, mais pourquoi pas.
Sur elle.
Sur elle, oui. Je l'écoute. Effectivement, je serais ravi qu'Horizon soit dirigé par elle plutôt que par Édouard Philippe. Enfin, disons,
En tant que libéral, moi aussi.
Bon, c'est du.
Donc voilà, chez Macron, il y avait quand même Kasparian.
Oui, oui, d'accord.
Qui est, voilà, qui est un vrai libéral. On ne peut pas lui ôter ça. Enfin,
non,
je veux dire,
bien sûr, non, mais il y a toujours Alain Madelin que je connais depuis.
Alain Madelin.
Que les libéraux connaissent depuis fort longtemps, disons. Mais ouais. Alain Madelin, à l'élection présidentielle, il a fait 3,92%, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Enfin, à mon grand dame, je suis déçu. Désolé.
C'était une autre époque. Hein. Il faut se souvenir qu'à cette 2002. Époque, tout le monde était plus ou moins libéral, quand même.
En 2002
Il y avait. On va dire, déjà, ah ben ça, alors, le RN, était quand, même, le RN ouais. était quand même beaucoup plus libéral. Le RN de Jean-Marie Le Pen par rapport à celui de sa fille.
On va dire plus poujadiste, mais en tout cas, je ne sais pas si.
C'est ça. On va dire que le poujadisme est une petite fille du libéralisme, en quelque sorte.
Oui, enfin, les poujadistes, en général, ne sont pas très, très amateurs des milliardaires et des millionnaires. Enfin, je veux dire. Je suis ravi qu'on s'occupe des petits commerçants. Je pense que c'est fondamental. Il faut absolument que les petits commerçants soient libérés de toutes les contraintes qu'ils subissent.
On était, à mon avis, moins fortement sous une emprise aujourd'hui socialiste. Et il est vrai que s'il y a quelques figures dans chacun des partis qui sont des figures libérales, je pense chez Reconquête à Sarah Knafo aussi, qui a un vrai discours libéral.
Oui, bien sûr.
S'il y a quelques figures comme ça qui ont un discours libéral aujourd'hui, l'essentiel du discours est étatiste, dirigiste, très influencé par le socialisme. Et très clairement, à commencer par le Rassemblement National, qui est aujourd'hui un discours très, très fortement étatiste et absolument pas libéral.
Oui, d'ailleurs, on a beaucoup perdu récemment, puisque visiblement, Sarah Knafo ne sera pas présente à l'élection présidentielle, remplacée par Éric Zemmour, qui, là, pour le coup, est très bonapartiste. Je crois qu'il est même il ne se cache pas, disons, de son bonapartisme et de son césarisme, on va dire.
Alors, dans la revue, il y a un article intéressant, me faites penser à ça, qui sera dans le numéro 1, qui a été écrit par Romain Marcilly, qui est le directeur général du parti de David Isnard.
Oui, de Nouvelle Énergie.
Et cet article, justement, dit que le bonapartisme a presque. Alors, l'article est un peu provocateur.
Oui, mais lui, il est corse.
Attention, parce que moi aussi, je suis d'origine corse.
Non, mais je ne dis surtout pas de mal des Corses. Je dis juste que ça ne lui donne pas un goût pour Napoléon.
Non, mais en tout cas, son article est bien argumenté. Et il y explique que, de manière un peu provocatrice, que finalement. Napoléon Bonaparte et Napoléon III ont presque plus fait pour la liberté que les libéraux eux-mêmes, parce que ils ont finalement, en prenant le pouvoir et en transformant le pays, consolidé tous les acquis du libéralisme. Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas considérer que le Code civil a eu plus d'impact pour la liberté que... les écrits de Benjamin Constant, pour être provocateur.
Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. On peut d'ailleurs ajouter Louis-Philippe Ier aussi, une fois de plus, avec ces trois noms, il ne faut pas être trop difficile notion de libéralisme. C'est comparativement...
C'est une provocation, évidemment.
Pure provocation, pas pure provocation, il y a du vrai dans ce que vous dites. La seule chose, c'est que... c'est comparativement avec ce qu'on a eu d'autres, disons, c'est sûr que ces trois figures ont contribué, on va dire, à l'ouverture des marchés, à la prospérité du 19e siècle.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que le libéralisme, si ça reste juste une gentille théorie sympathique, et que les libéraux ne prennent jamais le pouvoir, ce qui semble être un peu la malédiction des libéraux depuis quelques années. Moi, depuis que je suis né en 1980, si vous voulez, donc je n'ai jamais vu de libéralisme au pouvoir. si ça reste à cet état-là, en fait, ça ne sert à pas grand-chose, finalement. D'ailleurs, on voit bien qu'on tend de plus en plus vers une France illibérale. Donc, moi, ce que je crois, c'est que les libéraux doivent faire alliance avec d'autres partis et prendre le pouvoir.
Voilà. Non, j'en serais ravi, mais alors justement, ce qu'on vient de voir, je parlais de Sarah Knafo et d'Éric Zemmour, et puis parallèlement, toujours dans cette frange du spectre politique, Jordan Bardella, pour des raisons juridiques, enfin judiciaires, cède la place à, oui. à Marine Le Pen. Enfin, disons, c'était la place ouais. de Marine Le Pen de toute façon. Enfin, bref.
Non, mais c'est la mouvance Tanguy qui l'emporte, quoi.
Pardon, essayez.
C'est la mouvance Tanguy qui l'emporte au Rassemblement National.
En tout cas, la mouvance socialiste, je ne sais pas. Enfin, voilà, la mouvance, oui, c'est ça, en tout cas. Je dirais, il y avait un peu de libéralisme dans les propos de Jordan Bardella, moins que chez Sarah Knafo, mais un petit peu quand même.
Ouais, pas beaucoup.
Voilà, et il n'y en a plus du tout, en tout cas, dans les propos de. Enfin, dans les propositions. Plutôt de Marine Le Pen. Bon, alors ça, c'est un petit peu dommage, parce que du coup, ben, il reste David Lisnard, et pour l'instant, il décolle pas beaucoup. Enfin, bon,
il décolle pas beaucoup parce que
bah, parce qu'on est loin des élections aussi. Il y a toujours cet effet-là.
Il faut faire très attention. Hein.
C'est un petit peu ce qu'on avait vu d'ailleurs avec les primaires, la primaire qui réunissait Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon. C'est qu'au dernier moment, les gens se sont dit ah non, on va pas les deux autres. Enfin, ça a fait monter très, très fort François Fillon.
Personne ne s'attendait, je pense, au succès de Fillon. C'est venu d'un coup. C'est venu d'un coup.
On avait organisé, à l'époque, j'étais un des dirigeants de l'ALEPS, l'Association pour la Liberté Économique et le Progrès Social. On avait organisé au Théâtre du Gymnase, avec 10 associations libérales, une rencontre avec Fillon. Et en sortant de l'association, j'avais demandé à Jacqueline Balestier, honorons sa mémoire, combien il faisait dans les sondages. Puis on avait regardé, puis j'avais vu 7%. Je me disais, mais on perd notre temps. Enfin, genre, et effectivement, 2 mois après, il était très largement en tête des primaires.
Bien sûr.
Donc, oui, bien sûr.
D'ailleurs, David Lisnard appelle à quelque chose que je crois être très intelligente et pour moi, la seule solution, en tout cas pour sortir notre pays de l'ornière, parce que je ne crois pas que la proposition du Rassemblement National, et encore pire, celle de la France Insoumise, nous amène nulle part, il propose une primaire. Il propose une primaire à droite, et je crois qu'en effet, il a raison. C'est-à-dire que les projets se fassent opposition comme un quart de finale, vous voyez, qui va permettre de dire est-ce qu'on veut une droite étatiste, comme on a depuis un petit moment quand même, ou est-ce qu'on veut une droite libérale ?
Oui, qu'au moins le candidat du centre-droit, on va dire, soit, fasse l'unanimité, qu'ils ne se tirent pas tous dans les pattes, etc.
Exactement.
Naturellement, un système à deux tours aboutit à l'existence de 4 grands courants, disons. Alors, celui de Mélenchon est très clair, celui de Marine Le Pen, on va dire, est très clair aussi.
Oui.
Il y a une sorte de marasme, ou de marée au centre. Et là, on a peur aujourd'hui qu'il y ait 22 candidats.
En tout cas, on s'oriente tout doucement vers ça. Et c'est certain que ça c'est pas une très bonne nouvelle pour notre pays. Donc, ce qui est dommage, parce que, si vous voulez, c'est une des choses qu'on veut montrer dans cette revue, c'est que. D'abord, il faut arrêter de désespérer de ce pays.
D'accord.
Parce qu'avec tous les boulets qu'on a au pied, notre situation économique, finalement, est quand même vraiment pas si mal. Notre situation est vraiment pas si mal compte tenu de tout ce qu'on a comme entrave.
Les libéraux sont toujours optimistes à long terme et pessimistes à court terme.
Voilà.
Forcément,
ce qui est mon cas. En plus, la France est probablement à un moment historique qui ne se reproduira pas. Probablement pas, et qui n'existait pas par le passé, qui est qu'il y a cette révolution technologique qui est en train de se produire, qui est spectaculaire.
De l'intelligence artificielle ?
Pas que.
Non, d'accord.
Qui va intégralement rebattre les cartes. Je parle de l'intelligence artificielle, je parle du robot, parce qu'on ne se rend pas compte, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais la révolution qui arrive aussi, c'est le robot.
C'est
spectaculaire.
Avec l'intelligence artificielle à l'intérieur des robots, de
équipé
toute façon.
Par intelligence artificielle.
Oui, équipé par. Oui, oui.
Je parle du robot humanoïde. Je parle aussi du quantique, évidemment.
D'accord.
Je parle aussi de l'énergie.
Ça, je vous laisserai en parler parce que j'ai quand même. Oui, oui.
Et donc, l'énergie, oui. Toutes ces technologies qui arrivent vont intégralement transformer l'économie mondiale, vont intégralement transformer aussi le travail.
Oui, oui.
Et il se trouve que la France est un des rares pays. Après, évidemment, les États-Unis et la Chine, à être très forte dans tous ces domaines-là. On est très fort en IA. On est le seul pays hors États-Unis-Chine qui est vraiment très fort en IA. Et je ne parle pas que de Mistral. Il y a Mistral, qui est une entreprise française extrêmement performante. Mais il y a aussi, par exemple, Chavvision, ShapVision, c'est une entreprise de sécurité par l'IA qui a remporté le contrat de l'armée allemande et de, et de la police allemande devant le géant Palantir de Peter Thiel.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Oui.
Donc l'IA, je parle du robot. Donc en robot, par exemple, on a une entreprise exceptionnelle qui s'appelle Wondercraft, qui fait des robots qui sont capables de porter des charges très lourdes dans les usines.
Ah oui.
Renault a commandé là pour cette année... je ne sais plus si c'est 200, 300 robots humanoïdes à Wondercraft.
Oui.
On est très fort dans le robot. On est très fort dans le quantique.
Oui.
Le quantique, qu'est-ce que c'est la révolution quantique? Ça va être le moyen d'avoir des ordinateurs qui auront des puissances de calcul qui seront multipliées de manière exponentielle.
Mais est-ce qu'on en est sûr du quantique?
Est-ce qu'on est sûr
est-ce que le quantique est au stade de la recherche ou mieux que ça quand même?
On est comme toujours entre au milieu entre la recherche et le développement, c'est-à-dire qu'ils commencent à développer.
Bah, en robotique, on est au-delà du développement.
Les choses existent.
Évidemment, elles continuent de progresser.
On est à l'expansion, on va dire.
Bien sûr,
Dans le robot, on est à la fin du développement. C'est-à-dire que là, ça y est, les premiers robots qui maîtrisent le geste de la main, qui était vraiment un élément très important, ça y est, ils sont là. Donc, on les voit et c'est spectaculaire. Sur le quantique, on y arrive tout doucement. Et puis, n'oublions pas la suite du nucléaire, la fusion.
La fusion thermonucléaire, mais là aussi, on est vraiment au stade
au début
de la recherche.
On est au début du dé, mais de plus en plus, il y a des annonces de
réussite.
De réussite.
Oui, voilà. Oui, bien sûr.
Donc maintenant, il faut le maîtriser d'un point de vue industriel, financier, etc. Mais on sait qu'on va y arriver.
D'accord, oui. Bien, alors.
Et donc la France peut saisir tout ça, voilà.
À l'écoute de Radio Courtoisie. L'émission s'intitule Libre Journal des économistes. Mon invité est Bertrand Piccard, entrepreneur, fondateur de la revue Civilisation. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires. On s'interrompt une petite seconde pour passer un bobino. Je vous retrouve tout de suite en studio. On vous retrouve tout de suite en studio. À tout de suite.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Alors vous m'avez dit en antenne que vous souhaitiez fédérer toutes les chapelles, les multiples chapelles libérales qui existent en France. Alors, parlez-nous un peu de ça parce que ça me semble... Pour bien les connaître, pour les fréquenter depuis très très longtemps, je suis libéral depuis, je suis beaucoup plus âgé que vous, je ne sais pas trop comment dire, s'il y a vraiment un truc qui ne ressemble pas à l'armée nazie, ce sont les chapelles libérales, il y en a de tout type, etc., donc je ne sais pas trop
la
manière dont vous comptez vous y prendre. Oui.
Moi, on a ouvert nos colonnes à toutes ces chapelles, et on a... beaucoup de nos contributeurs qui viennent de différentes obédiences, on va dire.
Oui, c'est ça.
Et même quand vous regardez notre comité éditorial et notre comité scientifique, on a des personnalités qui viennent d'un peu partout.
C'est donc une revue à comité.
Oui.
C'est une ambition universitaire, presque. Enfin, je veux dire,
écoutez, dans le comité scientifique, on a des gens de très très bon niveau.
On va peut-être citer les noms, parce que... Alors évidemment, il y a les auditeurs qui s'ils sont fidèles à l'émission, ils connaissent fort bien Fergan Aziari, donc qui fait partie du comité éditorial, qui a été très longtemps... qui était invité permanent, je dirais, ici pendant plusieurs années. Il y a François-Xavier Bellamy, qui est connu, Romain Marcilli, dont vous parliez tout à l'heure, Robin Rivaton, Samuel Fitoussi, etc. Voilà. Et puis dans le comité scientifique, on a Rémi Braque, s'il y a des noms que vous voulez ajouter, n'hésitez pas. Rémi Braque, Chantal Delsol, Alain Finkielkraut, Mathieu Laine, Pierre Manant, voilà. Donc vous réunissez plus de 50 signatures françaises et internationales, donc ça promet d'être très intéressant, disons.
C'est très riche. Je vous assure que les comités sont passionnants et ça s'engueule, ce qui est bien. Ce qui est bien, je pense, parce que ça s'engueule, mais avec l'objectif de faire une revue commune. Et d'arriver à faire en sorte que cette revue ait un impact réel. Ce que tout le monde partage, c'est qu'ils aiment ce pays. Voilà. Ce qu'on partage tous dans cette revue, c'est qu'on aime ce pays, qu'on ne veut pas se résoudre à son déclin, qu'on ne veut pas se résoudre à cette médiocrité qui semble avoir pénétré toutes les parties de la société, et notamment la tête.
Notamment là.
Et notamment sa tête.
Ah oui,
notamment
bah
la tête
oui,
de
oui,
la société.
Oui.
Moi, je pense que oui. la France est très malade de ses élites.
Voilà. Mais elle est très malade, surtout d'être gouvernée par des élites. S'il y a vraiment un domaine sur lequel les libéraux sont formels, disons, c'est la subsidiarité.
Enfin, alors voilà.
Enfin, il y a beaucoup d'autres domaines, le respect des droits de propriété légitime en premier lieu, disons. Mais en tout cas, cette question de la subsidiarité est fondamentale. Et donc, je ne sais pas si c'est un problème d'élite ou si c'est un problème du fait que n'importe quelle école est gérée rue de Grenelle par 3000 fonctionnaires qui sont des kilomètres éventuellement de cette école. Enfin, c'est ça le plus gros problème, c'est que quand on voit des pays qui sont cantonalisés comme la Suisse ou avec des Länder comme en Allemagne, les décisions, au moins les décisions concernant l'éducation sont locales ou provinciales.
Enfin,
ça fait déjà qu'elles sont moins hors sol que dans un pays où tout est centralisé comme ça.
C'est vrai, on a la subsidiarité, c'est évidemment un sujet dont on parle énormément dans la revue. Il y a, vous verrez, il y a un article notamment de Jean-Thomas Le Sueur qui est à l'Institut Thomas More qui parle du sujet très longuement dans la revue.
Très bien, oui.
En plus, la subsidiarité, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut convaincre les conservateurs de la subsidiarité, c'est quelque chose qui peut les toucher, en réalité.
Oui, alors c'est ça, donc en fait, vous essayez de pénétrer les milieux conservateurs pour les rendre libéraux, c'est ça l'idée?
Nous, on pense que qu'ils sont des libéraux qui s'ignorent. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant.
Oui.
Quand vous regardez des sondages, il y a eu un sondage récent, je ne sais pas si vous en avez parlé dans votre antenne, qui ont sondé les électeurs du Rassemblement National sur des sujets qui étaient l'impôt, l'État, le dirigisme, etc. Et les résultats étaient spectaculaires. La très grande majorité des électeurs du Front National ne sont pas du tout étatistes, dirigistes comme les dirigeants de ce parti.
Le peuple, est, de toute façon, d'une manière générale, est beaucoup plus libéral qu'on ne l'imagine.
Exactement.
Nicolas Sarkozy n'a surtout pas été un président libéral, mais en tout cas sa campagne en 2007, je dirais la musique était libérale, les paroles pas toujours, mais en tout cas la musique était très libérale, et il a été élu sans l'appui d'ailleurs des voix de l'extrême droite, ou de la droite nationale ou patriotique, ou, peu importe la manière dont on l'appelle, disons, mais il a été élu très très nettement.
Sur travailler plus pour gagner plus.
Voilà, par exemple, travailler plus pour gagner plus,
mais je ne suis pas contre le fait
que les gens travaillent moins, attention, hein, c'est pas...
Mais ceux qui veulent travailler plus, qui puissent, et qui
profitent eux-mêmes des fruits de leur travail, disons. Voilà.
Je crois que le problème, c'est que la politique aujourd'hui est fracturée autour de la question de l'immigration et de la question de l'identité, qui sont des questions évidemment très importantes et que nous, on traite. Mais ça ne peut pas être la seule fracture.
Oui.
Et l'objectif, c'est de proposer d'autres fractures, et notamment, une qui me semble très importante, c'est les gens qui travaillent doivent pouvoir gagner leur vie grâce à leur travail.
Bien sûr, oui.
Et donc, ça, c'est essentiel. Je vais vous dire, pour un chef d'entreprise, quand on voit ce que ça coûte à l'entreprise et ce qui reste à l'employé, c'est un déchirement réel.
Ah oui, bien sûr. C'est
terrible de se dire...
Il y a 50% qui part minimum. Enfin,
si je paye quelqu'un, disons, un bon salaire, 40 000 euros, okay, il va recevoir 40 000 euros. Déjà, moi, ça va me coûter 80.
Ah oui.
L'entreprise, je dis moi, l'entreprise, ça va lui coûter 80.
J'entends bien, oui.
Et à la fin, il va payer son impôt sur le revenu et sa TVA, qu'est-ce qui va lui rester? 15.
Et bien sûr, s'il a le malheur d'être fumeur et d'utiliser un peu sa voiture, il restera encore moins.
Ouais. Ça, c'est terrible, parce que vous ne pouvez plus
vivre dignement de votre...
Faire en sorte que les gens qui sont chez vous, qui sont exceptionnels, qui travaillent, qui sont ingénieux, qui sont motivés, etc., vous ne pouvez pas les récompenser en amélioration de leur qualité de vie.
Or, bien sûr, oui.
À un moment, c'est ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire qu'il est certain que y a une limite au-delà de laquelle vous avez suffisamment de moyens pour que vous puissiez penser à autre chose.
Oui.
Mais aujourd'hui, ce que le socialisme a fait, c'est qu'il a enfoncé l'intégralité de la population, notamment ceux qui travaillent, dans une situation où, en réalité, ils savent pas comment finir leur fin de mois.
Bien sûr, c'est la vraie question.
Moi, je fais partie, en quelque sorte, des gagnants du système. Il est évident que j'appuie sur un bouton et je suis dans un autre pays et Zucman pourra m'attendre à l'aéroport s'il veut, il pourra pas m'arrêter.
Bon, ne les provoquez pas.
Bien sûr, mais si vous voulez, ce que je souhaite, c'est me battre. Pour ces gens qui travaillent, on a quasiment 300 personnes dans l'entreprise, Et c'est ces gens-là pour qui j'ai envie de me battre. Et je resterai, et je partirai pas, parce que ce pays est merveilleux et qu'il faut que les entrepreneurs se mobilisent. Voilà.
Tout à fait. Alors, une intervention d'un auditeur. Bonjour messieurs, l'invité nous donne confiance en l'avenir et prouve que les Français sont encore et toujours là. Mais je vous entends vous demander si le programme du Rassemblement National, personnifié par Marine Le Pen, n'est pas négatif. Or, je crains que vous méconnaissiez la règle vitale pour la survie d'une société ou d'une civilisation, à savoir ne pas parler du sexe des anges. Quand Saladin est aux portes. En conclusion, messieurs, ce même Saladin est déjà en nombre chez nous et je vous laisse imaginer ce qu'il adviendra de vos savants calculs et de vos projets économiques si le RN ne passe pas. Mais les libéraux, j'ai un monsieur et même des gens très 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 libéraux comme Hans Hermann Hoppe, sont pas forcément favorables à une immigration incontrôlée. Donc, surtout pas si c'est de ça. Enfin, je crois que c'est de ça que vous parlez.
C'est de ça dont il s'agit, évidemment pas. Et d'ailleurs, il y a deux mots qui sont quasiment synonymes, liberté et souveraineté.
Oui.
Souveraineté, qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est synonyme selon vous.
C'est, en tout cas, là, qu'est-ce que c'est être souverain?
À l'échelon individuel.
À l'échelon individuel, c'est synonyme.
D'accord.
Et donc ensuite, si on passe à l'échelon de la nation,
oui.
La nation souveraine, c'est une nation qui est libre. Et pour qu'elle puisse être libre, il faut qu'elle soit forte.
Alors, l'Albanie d'Enver Hoxha, pour prendre un exemple un peu extrême, était un pays absolument autarcique. Enfin, disons, même les communistes russes ou les titistes de Yougoslavie n'entraient pas, on va dire, en Albanie.
Ouais.
Est-ce qu'elle était souveraine? Je ne sais pas.
Mais en tout cas,
Enver Hoxha était souverain chez lui.
En fait, ce qu'il faut, c'est avoir les deux. C'est-à-dire qu'il faut avoir... Il faut que l'individu soit libre et que la nation soit souveraine. Mais si la nation n'est plus souveraine, l'individu ne peut plus être libre. C'était mon point.
D'accord.
Et donc, c'est très bien cette histoire d'immigration, pouvoir la contrôler. Mais pour pouvoir contrôler l'immigration, il faut aussi un pays qui fonctionne. Il faut un pays qui soit capable d'appliquer les décisions qui sont prises. Et pour ça, il faut un pays qui soit suffisamment fort. Et l'économie est très importante pour cela.
Bien sûr. Voilà. Oui, oui.
Parce que aujourd'hui, prenons un exemple tout bête, mais notre pays est surendetté. On a
3 500 milliards d'euros de dette. Cumulés, avoués.
Lorsque on est endetté à ce point, on ne peut plus être souverain.
Oui.
On ne peut plus être souverain parce que on a des créanciers et que ces créanciers sont les personnes réellement qui prennent les décisions. Si demain on se retrouvait dans une situation catastrophique où on disait, comme le propose LFI, qu'on annule une partie de la dette, etc. Il faut savoir que l'État a 3 mois de cash aujourd'hui, 3 mois d'argent en trésorerie.
Ah bon? Donc,
C'est l'équivalent.
Je crois qu'ils n'ont rien, surtout.
Il y a en gros à peu près 3 mois, donc ils sont obligés.
Moi, j'avais entendu dire, par exemple,
à intervalles réguliers, de retourner.
C'est chaque semaine.
Exactement.
Chaque semaine, l'Agence France Trésor.
Exactement.
Et je dirais même chaque 5 ou 6 jours.
Et donc, comment vous payez votre armée, comment vous payez votre police, comment vous payez vos fonctionnaires?
Je crois qu'on n'a pas. En tout cas, moi, j'ai pas entendu ça. Je ne sais pas où vous avez. Quelle est votre source?
De toute façon, moi, je me souviens qu'à 3 jours ou 3 mois, c'est la même chose.
À l'époque de Sarkozy, je me souviens que le ministre des Retraites avait dit ce serait bien si la retraite, plutôt que d'être payée le 8, était payé le premier, parce que c'est là que les gens dépensent, je sais pas quoi, achètent payent leur loyer, par exemple. Et donc, il avait dit, je m'engage à ce que vous soyez payé non plus le 8, mais le 1. Et immédiatement, l'URSSAF avait dit, c'est totalement impossible, monsieur le ministre, on reçoit nos cotisations URSSAF le 5 et le 6, on paye le 7 et le 8.
C'est ça.
Parce qu'il n'y a plus un centime, c'est-à-dire que tout ce qui a été payé par les Français en retraite depuis qu'ils ont commencé à travailler et dilapidé immédiatement en disant.
Et donc mon point était de dire que aujourd'hui on emprunte pour payer ce système social on va être obligé de le réformer parce que si on ne le réforme pas on est de moins en moins souverain et que moins on est souverain plus on augmente la paupérisation du pays.
Voilà. Oui.
Donc la souveraineté de la nation et la liberté individuelle sont intimement liées et ont besoin l'un de l'autre.
En tout cas, moins on est libre individuellement, plus on est pauvre, ça c'est sûr qu'il y a un lien très clair, disons, entre la liberté et la prospérité, même si nous ne défendons pas ici un point de vue utilitariste, disons, puisque même si la liberté appauvrissait, on choisirait quand même la liberté au nom de la sacralité de l'être humain, disons. Mais néanmoins,
c'est une vraie question.
Mais la question ne se pose pas. Puisque,
si la question se pose,
je vous écoute. Oui.
La question se pose, et d'ailleurs, c'est une question qu'on pose. On a un grand entretien dans la revue avec Peter Thiel. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit qui est Peter Thiel. C'est un des fondateurs de PayPal, le fondateur de Palantir, ce géant international de sécurité par l'IA. Par ailleurs, quelqu'un de très influent dans la politique américaine, puisque c'est un peu lui qui a fait Musk et qui a fait Vance. Peter Thiel, on l'interroge parce qu'il a des positions qu'on ne comprend pas toujours. Et on trouve ça intéressant dans la revue d'interroger quelqu'un qui a autant de pouvoir.
Oui.
Et on lui a posé justement cette question de la liberté et de la prospérité. Parce que lui, il considère que la Chine, aujourd'hui, a proposé un troc à ses citoyens en leur disant « Je vous prive de votre liberté, mais je vous donne de la prospérité.
»
Et que ça marche. Et lui, il appelle ça, dans sa théologie un peu philosophique, un peu étrange, il appelle ça l'antéchrist. Donc il parle de l'antéchrist pour ce troc entre « Je donne ma liberté » au prix de la prospérité.
Il faut savoir que le moral baisse énormément en Chine, précisément parce que, une fois qu'on a atteint, enfin, c'est le permis de Maslow, disons, une fois que, voilà, qu'on a un peu d'argent et qu'on a, je sais pas quoi, une baignoire à bulles, etc., etc., on en arrive à se dire, mais pourquoi est-ce que je suis pas libre de m'exprimer
c'est quand même une vraie question. Moi, je reviens du Vietnam. J'étais au Vietnam cet été. Le Vietnam, c'est encore un pays communiste. Vous avez des fossiles, des marteaux partout. C'est un pays sublime, extraordinaire, avec un peuple, en plus, incroyable. Enfin, il a résisté, il s'est battu contre les Français, les Américains, les Chinois, et ils ont mis leur pâté à chacun. Mais les Vietnamiens, aujourd'hui, sont apathiques. Et on a rencontré un intellectuel vietnamien qui nous disait « Personne se révolte tellement contre la dictature communiste qui est en place, parce qu'ils ont l'impression de mieux vivre que leurs parents, et leurs parents ont l'impression de mieux vivre que leurs grands-parents qui avaient connu la guerre. »
Oui.
Alors, ça, c'est des choses qui ne sont pas durables. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de décrire en Chine, c'est que aussi, à un moment, la progression économique ne va pas au rythme suffisant pour justifier tous ces sacrifices.
Et puis, la politique de Xi Jinping handicape terriblement la croissance aussi. C'est tout ce qui s'était passé sous Deng Xiaoping et Hu Jintao, maintenant, est un peu terminé, disons. Donc, il a profité au début de son autoritarisme totalitaire. Il a profité de cet élan, disons, lequel était la Chine, et il a été prolongé, cet élan. Mais aujourd'hui, voilà, on sent que, précisément, la chape de plomb qui pèse aujourd'hui sur les Chinois est absolument terrible. Des gens disparaissent, enfin, beaucoup de millionnaires ou milliardaires disparaissent. Enfin, je veux dire,
au Vietnam aussi, hein, il faut savoir qu'un opposant vietnamien a été assassiné, je crois, en Allemagne il y a quelques années. Personne n'en a parlé, mais ils font assassiner aussi leurs opposants, toujours. C'est pas une dictature sympa.
Non, bien sûr, je sais, bien sûr.
Mais. Avec
effectivement, quand
cela...
on voit, comme vous dites, le nombre de fossiles et de drapeaux qu'il y a dans les rues au Vietnam, disons, on voit à quoi
ça fait partie du folklore un peu, on sent. Le communisme, enfin, dire grand chose pour eux non plus. Hein, mais...
Non, bien sûr, mais enfin, disons, c'est pas.
Mais
ils sont
sous une dictature, en tout cas, ça c'est certain. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que, comme dans toute bonne dictature communiste, il y a des très très riches. Et alors, les très très riches, là-bas, ils se construisent des palais. J'étais sur l'autoroute et je passe à côté d'une maison énorme, enfin un mini palais qui ressemblait aux Invalides, vous voyez, avec un toit en or et tout, c'était vraiment le même style que les Invalides. Et je demande à notre guide, mais c'est quoi ça? Et elle dit, ah bah ça c'est les gens très riches qui se construisent des palais, quoi. Et c'est extraordinaire. Donc les inégalités sont spectaculaires dans ce pays. Je voulais finir sur un point, la Chine et le Vietnam sont confrontés à quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier, qui est l'effondrement démographique.
Ouais.
Et ça c'est un sujet dont on veut parler et dont on parlera énormément dans Civilisation. Et on aimerait que ce sujet fasse partie aussi des présidentielles en 2027. Il faut qu'on parle de démographie parce que c'est un sujet fondamental qui va révolutionner totalement la situation du monde.
Parlons de démographie, mais en même temps, le président de la République n'est pas un éleveur de Français, disons. C'est pas le but, troupeau.
Il n'a pas de jeunes Français à sa charge, en tout cas.
C'est sa vie privée. Bref.
Il n'a pas participé au
projet. Oui, des interventions d'auditeurs qui arrivent encore en masse. Alors, bonjour, bravo à votre invité dans son explication sur l'ordre et le libéralisme. Cela me fait penser à l'empirisme. Analysé par Charles Maurras, étant personnellement attaché à la monarchie, je pense que le libéralisme peut parfaitement fonctionner dans un tel régime. tout en ayant aussi une grande affection pour le système suisse. Mais voyez le succès du Liechtenstein ou même Monaco, où les habitants ne voudraient pas ne voudraient changer pour rien au monde. Voilà, qui est un royaliste, suisse, mais aussi l'ami de Frédéric Bastiat, nous voilà. Dit cet auditeur. Alors oui, effectivement, de toute façon, il y a des monarchies constitutionnelles, enfin disons qu'ils n'ont... Enfin, je ne sais pas s'il parle d'une monarchie autoritaire ou constitutionnelle, mais c'est vrai que la Corée du Sud avant 1992, ou des pays comme Singapour, etc., sont très autoritaires et en même temps très favorables, on va dire, à la liberté commerciale, au marché, etc. Ouais. Alors c'est pas forcément démocratique, mais il faut reconnaître que ça peut fonctionner, disons, du point de vue économique, du point de vue de la prospérité. Un auditeur nous dit, j'ai une petite idée sur la démocratie. Pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit gérée par des aristocrates de la démocratie. Attention, j'utilise le mot aristocrate comme le définissait Dominique Vénère, ce qui englobe tous les gens, depuis les plus humbles aux plus riches. Et une démocratie peut mourir en devenant une ochlocratie, comme défini par l'anacyclose de Polybe, abordée par Platon. Bon, bravo,
un peu... moi, là-dessus, juste ce que ça m'inspire, c'est... le plus grand scandale aujourd'hui de notre pays et ce à quoi il faut s'attaquer tout de suite, oui. C'est l'école et la transmission.
Alors comment pensez-vous, vous n'êtes pas candidat à la présidentielle, mais
non, mais moi je vais vous prendre un exemple parce que j'imagine que c'est un sujet que vous traitez beaucoup avec Lisa, etc. Mais je vais vous prendre un exemple qui me touche particulièrement, c'est que quand j'étais jeune pour payer mes études en parallèle de mes études en école de commerce, j'ai été prof de maths en prépa.
Oui.
Et donc j'ai enseigné les maths pendant 4-5 ans. Et les maths, c'est une matière de déduction.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez un théorème, vous en déduisez un résultat. Et c'était une matière que l'extrême gauche n'avait pas encore réussi vraiment à briser. Ils se sont attaqués à l'histoire, ils se sont attaqués à la littérature, ils se sont attaqués à tout ce qu'ils pouvaient.
Tout à fait, oui.
Même au sport, avec des mots complètement crétins. Et maintenant, on ne fait plus de vrais sports, on fait des sports, on fait des galipettes, enfin n'importe quoi. Bon.
Avec des référentiels rebondissants.
Mais ils n'avaient pas encore réussi à s'attaquer aux mathématiques. Et là, depuis quelques années, moi j'ai découvert ça en travaillant les maths avec mon fils.
Oui.
Ils apprennent les maths par l'induction. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'élève de lui-même fasse émerger en lui, vous savez, la connaissance.
Ça, c'est toutes les théories 68ardes sur le fait que, voilà, que la connaissance doit venir de l'élève.
Parce que la déduction était trop verticale pour eux, donc il faudrait de l'induction. Et alors, ça donne des maths qui sont totalement incompréhensibles.
Bien sûr, oui.
Ça donne...
Et l'histoire incompréhensible, parce que pour l'histoire, c'est pareil.
Voilà.
On vous donne une poterie gauloise et vous devez reconstituer la civilisation gauloise et romaine à partir du bout de
les maths, si vous voulez, ça me rend vraiment fou parce que...
Je comprends.
On était un des grands pays des mathématiques, on s'est effondré. On est dernier dans tous les classements. Je ne sais pas si on se rend compte qu'on est dernier en maths en Europe. Bon. Et la France, c'était un pays, justement, cette extrême gauche qui nous parle d'égalité, etc. Les maths, c'était le moyen de faire émerger des génies dans des familles très modestes. Et on arrivait à repérer des génies et à les faire monter. Et on avait le record de médailles Fields. Et ça accompagnait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la France est toujours très forte dans ces domaines qui vont changer l'avenir, que sont l'IA, le robot, le quantique, l'énergie, etc. C'est parce qu'on a des très grands mathématiciens.
Oui.
Voilà. Et donc ça, on est en train de le détruire. En une génération, c'est fait.
Bien sûr,
et il faut tout de suite arrêter l'hémorragie.
Il faut 200 ans pour faire pousser une forêt, il faut une journée pour la laisser brûler, disons. Ouais. Bien sûr, et c'est un peu le cas pour... Alors un auditeur nous dit « Bonjour messieurs, émission très intéressante, merci. Ne le prenez pas mal, mais à 55 ans, je n'ai jamais rencontré... que deux grands types de libéraux se disant conservateurs, les tartuffes et les cocus, style électeur gaulliste. La question de l'identité et de la nation ne peut être traitée par les penseurs libéraux que par raccro et de façon ambiguë. Cordialement. Bien, bon.
Ça va.
Voilà. Une auditrice nous dit « Bonjour messieurs, une vague de fraîcheur et un souffle d'intelligence dans ce témoignage qui combat la morosité ambiante. Que le ciel vous entende. À propos de ciel, votre invité est-il passé par l'enseignement privé confessionnel ? Merci pour l'émission. »
J'ai fait mes études.
Pardon.
J'étais à Saint-Jean-de-Passy.
D'accord, oui.
Voilà.
Et un long commentaire de mon question. Alors, bonjour, nous dit auditeur. Bonjour, croyez-vous vraiment que les idées libérales aient la moindre chance avec un système politique qui confond la démagogie électorale avec le mythe démocratique ? A-t-on réellement fait quelques progrès depuis les années 70, quand l'industrie japonaise se robotisait et introduisait un contrôle qualité et le zéro défaut ? Alors que notre patronat importait des masses de manœuvres sans formation pour faire baisser les salaires et que l'on allait s'enfoncer dans une prétendue société post-industrielle et des loisirs. Le pays attend, comme toujours, l'homme providentiel, comme il vit de l'État-providence, de la même façon que les clans de primitifs attendent tout du roi intercesseur des dieux, que l'on mettra à mort si une catastrophe survient. Il a été capable d'avaler avec enthousiasme le vaccin magique, comme il attend tout d'une pilule, sans se lever le fondement au moindre effort. Alors l'idée de prendre en main son destin, n'est-ce pas une utopie? Après tout, il n'y a pas de bonheur dans l'esclavage pour ceux que la liberté écrase. N'y a-t-il pas du bonheur dans l'esclavage pour ceux que la liberté écrase? Voilà, non, mais... les opinions de chaque auditeur, évidemment,
non, mais appartiennent à chaque auditeur. Oui, puis j'ai pas forcément tout compris dans l'intervention, mais en tout cas, la fin, elle finit sur la Boétie, hein, la servitude volontaire, qui est un des... notre thématique du numéro 1 de Civilisation, coup d'État, c'est un peu ça. C'est le fait qu'on est finalement sous emprise de l'État, que les Français souffrent d'un État qui est aussi omniprésent qu'inefficace. Lorsqu'ils se révoltent, c'est arrivé par exemple avec les Gilets jaunes, parce que c'était parti au début d'un sujet de taxes trop élevé. Ils se révoltent de manière désorganisée, mais finalement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne plus d'État. C'est-à-dire que ça s'est calmé quand on dépense plus. Quoi.
J'avais dit, j'avais trois invités qui étaient prêts à manifester avec les Gilets jaunes.
Ouais.
Je leur avais dit, ça va glisser cette histoire.
Bah, ça part de l'État et le problème. J'ai plus d'État.
Il faut taxer les milliardaires.
Et donc, il y a un vrai sujet sur la servitude volontaire. Et moi, je pense que les Français sont un peuple extraordinairement résilient et capable de rebond, mais ils ont souvent besoin de passer par des phases un peu difficiles. Et là, on est en plein dedans. Et donc, on ne peut qu'espérer.
Vous dites que vous êtes né avec le socialisme, puisque vous êtes né en 1980. Je suis né en 1965. Je suis tombé dans la crise quand j'avais 7 ans. Et depuis, les effets sont permanents chez moi. Hein, donc, voilà, je l'ai connu à peu près que ça, puisque la crise de 73.
C'est vrai. Quand j'avais 7 ans. Vous êtes né après Rueff et son grand plan de libéralisation de l'économie, qui a été assez spectaculaire.
Oui, bien sûr.
L'alliance entre De Gaulle et Rueff.
Notre association ALEPS a été cofondée par Jacques Rueff.
Ah bon. Donc, on a un long article sur Rueff.
Votre numéro 1.
Ouais, dans le numéro 1, le sorcier de De Gaulle.
Coup d'État, oui, d'accord. Ouais. Voilà, ouais. Bien, alors sur des questions, il y a des questions quand même où ce libéralisme et ce conservatisme s'opposent, me semble-t-il, par exemple sur la question de la drogue, de la libéralisation des drogues. En général, les conservateurs n'y sont pas très favorables. Pour les libéraux, je crois que le doute se pose pas. Alors, je sais que je ne me fais pas beaucoup d'amis chez les auditeurs qui sont plus conservateurs que libéraux, souvent. Moi, je suis désespéré de voir que l'État avoue un demi-milliard d'investissements dans la lutte contre la drogue. À chaque fois, ils font des saisies records, mais les gars sont les premiers à reconnaître que c'est une goutte d'eau dans un océan et que, je veux dire, ça représente vraiment un pouillème de tout ce qui transite sur le territoire et ce qui est consommé. Et puis ça se traduit par des gars qui se tirent à la mitraillette dans les villes maintenant. Enfin, je veux dire que c'est vraiment c'est un échec absolu. Ça ne marche pas du tout. Bon, moi, je pense que c'est bien. Il faut encourager ses enfants à ne pas toucher à la drogue. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et c'est ce qui fait de moi un conservateur. Mais du point de vue politique, je pense que c'est une grave, grossière erreur, disons, de miser sur cet autoritarisme dans ce domaine. Alors évidemment, il y a toutes les drogues, il y a des drogues qui sont bien plus graves qu'un joint, etc. Mais c'est pas à nous de décider, disons, si on a le droit de boire du thé ou pas, ou si on a le droit de boire de l'alcool ou pas, et dans quelle quantité, etc. etc. Est-ce qu'il faut des recharges de 10 millilitres pour les... Est-ce que, je pose la question, je ne sais pas s'il y a un point de vue de civilisation, de la revue Civilisation sur le sujet, ou si c'est un sujet qui pourrait être débattu dans vos colonnes,
Je trouve que c'est ce que je dis souvent à mes amis qui sont que libéraux et pas conservateurs.
Alors comme moi, ouais.
Et je leur dis, le sujet de la drogue, c'est bien, mais quand on regarde l'état du pays, on pourrait peut-être le mettre de côté et traiter les sujets vraiment importants.
Bah, pour la personne qui se prend une balle dans les rues de Nîmes, le sujet est fondamental. C'est juste qu'elle passe de l'infini à rien du tout.
C'est quand même un peu exagéré de laisser croire que en libéralisant les drogues, il n'y aura pas de problème avec les narcotrafiquants. Il suffit de voir ce qui se passe. Il suffit de voir ce qui se passe aux Pays-Bas, qui est même beaucoup plus grave que ce que nous on a en France.
Oui, alors le gros souci, pour continuer deux secondes sur ce sujet, on va passer à un autre, mais c'est quand même que systématiquement, on libéralise la consommation. Et ça, on s'en fiche complètement, parce que les gens sont chez eux, ils font ce qu'ils font. Voilà,
non, mais
on
la production de cannabis, c'est aussi libéralisé.
Il faut libéraliser la production et la vente, et c'est uniquement là-dessus, disons, que la
oui,
lutte contre
les
mafias peut se faire.
Les deux sont libéralisés aux Pays-Bas,
non,
la production
tout,
et la vente. Vous pouvez aller acheter librement
alors,
joint.
Alors, plus
dans
maintenant,
les rues,
déjà, hein. Puisqu'il faut être néerlandais, disons, pour le faire. Et puis, c'est pas toutes les drogues, disons. Oui, peu importe, ça a été le contrat qui a été passé entre pour avoir le siège d'Interpol, ils ont fait passer des lois, disons, qui n'ont sans doute eu aucun effet pour empêcher le tourisme, le tourisme de la drogue. Enfin, peu importe. Mais c'est toujours cette question, puis il y avait un milliardaire néerlandais qui avait lancé les bulldogs, Hank de Vries, qui a été embêté, jusqu'à disparaître, disons, parce que les Pays-Bas supportaient pas l'idée qu'un gars se fasse du fric là-dessus. Il fallait que les coffee shops, comme on les appelle, soient associatifs, etc. Donc il y a quand même cette idée qu'il faut surtout pas qu'il y ait, comme il y a pour l'alcool, enfin, les noms des groupes ont changé, enfin, je veux dire, les Ricard, Seagram, machin, etc., enfin, ou l'équivalent actuel, voilà, des grands groupes, et les gens se tirent pas, quand Heineken veut racheter Carlsberg, ou je ne sais pas, enfin, je veux dire, les gens se tirent pas dessus dans la rue, pour ça, mais enfin,
bon. Je pense que c'est pas comparable. La comparaison entre l'alcool et la drogue est très dangereuse, et il suffit de voir aujourd'hui, toutes les études sur notamment on pensait que les joints étaient pas dangereux et on sait aujourd'hui que au contraire ils le sont extrêmement pour le cerveau.
À l'alcool, on sait que c'est hyper dangereux pour le cerveau et on sait d'ailleurs qu'il y a pas pire.
On sait que c'est mauvais pour le cerveau mais en petite consommation, il y a aucun problème.
Ah bah évidemment, voilà. Bien sûr. Non mais ça c'est toujours le
par
problème.
Par contre les joints, c'est pas le cas. Et troisièmement, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que les réseaux sociaux sont comme une drogue et moi je suis plutôt pour protéger la société contre un ensemble de dangers, que ça soit la drogue, la consommation excessive d'alcool. C'est très bien que ça soit interdit, par exemple, aux mineurs, la vente d'alcool.
De toute façon,
c'est une très bonne chose.
Ah, oui.
Voilà. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe sur les réseaux sociaux est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu que Meta, donc Facebook, Instagram, a transigé dans un procès historique aux États-Unis. Où ils étaient accusés de mettre en danger le cerveau des enfants aux États-Unis. Ils ont transigé pour plusieurs milliards de dollars, je n'ai plus le chiffre exact, 5 milliards de dollars, 7 milliards de dollars, je ne sais pas. Zuckerberg lui-même a dit qu'il était transigé et qu'il était d'accord avec cette condamnation parce qu'il pensait que, en effet, les réseaux sociaux étaient désastreux pour le cerveau des enfants. Et donc, ils vont être interdits. Alors, il y a des mesures qui vont être prises. Je crois que ça va être interdit la nuit pour les enfants.
Ils ont fait ça, je crois, en Australie, avec un insuccès total, puisque, évidemment, tous les gosses passent par des VPN, etc.
Non, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet.
Mais ce que je veux dire, c'est que cette interdiction, je pense, doit être le fait des parents, hein, comme pour... je ne suis pas pour le fait qu'on vende de l'alcool aux enfants ou qu'on vende de la drogue aux enfants. Hein, c'est clair. Et alors, évidemment, si on vend aux grands frères, ils vont en filer à leurs petits frères, etc. Mais enfin, disons, de toute façon, ce problème-là sera contourné.
Oui.
Donc, ça ne sert à rien de faire monter le coût du contournement indéfiniment, disons.
Extrêmement défavorable à tout ce qui vise à réglementer le contenu sur les réseaux sociaux, par exemple.
Oui, oui.
En revanche, je suis très favorable à la protection des enfants sur les réseaux sociaux.
Mais la protection des enfants sur les réseaux sociaux, normalement, c'est le travail des parents. D'avoir des clés informatiques, etc., des choses, c'est à eux. Moi, je suis tout à fait pour le fait que les parents soient responsables.
De la même manière, on pourrait considérer que c'est le travail des parents d'empêcher leurs enfants de boire de la bière.
Bien sûr, oui, tout à fait. C'est leur travail.
Mais c'est aussi très bien que l'État interdise aux gens de vendre de l'alcool à des mineurs.
Oui, enfin, j'ai pas de...
C'est ça, finalement, le libéral conservatisme, c'est de considérer les deux côtés. la chose. Moi, finalement, je dirais que je suis presque ordo-libéral. Je ne sais pas si vous
connaissez la notion. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce que les Allemands, disons, ont
voilà,
pratiqué
c'est,
ça.
Rupke, exactement. Rusteau, etc.
Je crois qu'on en a déjà parlé.
Et les ordo-libéraux allemands, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont très inspirés de Rerum Novarum, de la doctrine sociale de l'Église, etc.
Bon. D'accord.
Et eux, les libéraux allemands, ils pensent que l'État a clairement un rôle à jouer.
Oui, oui.
Mais ils pensent qu'il faut mettre... l'individu au centre et lui rendre sa dignité, il croit en la subsidiarité, mais il y a besoin d'un certain nombre de garde-fous par l'État pour que le libéralisme puisse fonctionner. C'est ce que pensent les ordo-libéraux, très très résumé.
Oui, de toute façon, l'ordo-libéralisme, c'est pas vraiment une doctrine, c'est ce qui a été appliqué en Allemagne, disons, dans l'après-guerre, et finalement, c'est ce mélange de libéralisme et de conservatisme que vous appelez de vos voeux, disons, mais ça n'a pas cet aspect doctrinaire, sinon, enfin, souvent, on attribue ça aux écrits de Rupke, mais enfin, c'est... bref.
Il y a un très bon livre là-dessus que je recommande, d'un des membres de notre comité éditorial, qui s'appelle « Pour un libéralisme humaniste
»,
de Alexis Karklins-Marché. Je recommande, c'est vraiment exceptionnel.
Et puis il y a la somme de Patricia Commin, « Les ordos libéraux » aussi, qui est très complet sur le sujet. Un travail universitaire, on va dire, de qualité. Et puis, alors, un auditeur nous dit « Excellente émission, mais le responsable ne laisse jamais terminer ses phrases à l'invité. Très désagréable. » Alors, je suis désolé, c'est vrai que c'est mon péché systématique.
Merci de le défendre.
Non, mais voilà. Bon, donc, j'espère que vous avez pu finir quand même quelques phrases. Voilà. Sur la prostitution, les maisons closes, même sujet que sur la drogue ou,
non, moi, je pense que c'est... La plupart des libéraux qui, par exemple, j'aime beaucoup Gaspard Koenig.
Moi, pas du tout.
Très bien, moi, j'aime bien la personne. Je partage
parce
pas forcément toutes ses idées.
C'est revenu universel, mais bon. Oui.
Voilà. Mais,
je ne suis pas d'accord.
Mais on discutait il y a quelques temps de sa campagne, et je lui disais, mais finalement, quand vous aviez fait campagne, à l'époque où vous aviez fait campagne pour la présidentielle, Tout votre groupe, vous étiez très vite mis à parler du joint, du machin. Oui. Comment tu veux gagner avec ça?
Ah non, je dis pas qu'il faut en faire un sujet de campagne. C'est une question que je pose sur le général, disons, c'est toujours pour cette question de l'alliance entre libéralisme et conservatisme. C'est,
c'est
Friedrich Hayek qui a écrit un petit texte qui est « Pourquoi je ne suis pas conservateur ?»
Bon, il était totalement conservateur, Hayek. Permettez-moi de vous couper.
À titre personnel, voilà. C'est ça. C'est un comportement... Ouais. Personnel, le conservateur, mais il dit voilà, le libéral admet son ignorance et reconnaît que nous savons bien peu de choses sans pour autant invoquer l'autorité de sources surnaturelles de connaissances lorsque la raison se révèle impuissante. Ouais. Impuissante. On pourrait dire qu'il faut un certain degré d'humilité pour laisser les autres chercher leur bonheur à leur guise et pour adhérer de façon constante à cette tolérance qui caractérise essentiellement le libéralisme. Il dit aussi qu'il existe une complaisance typique du conservateur envers l'action de l'autorité établie et sa préférence pour le fait que celle-ci ne soit pas affaiblie par le traçage de limites définies. Cela est difficilement compatible avec la protection de la liberté. En général, on peut sans doute dire que le conservateur ne voit rien à redire à l'usage de la contrainte ou au secours à l'arbitraire, dès lors que l'intention est de servir ce qu'il considère comme des buts louables.
Ce qui est intéressant dans le libéral-conservatisme, c'est que c'est une position d'équilibre entre le pur conservateur et le pur libéral.
Oui,
et moi, c'est ça qui m'intéresse là-dedans. C'est la révolution civilisation, finalement, si on devait résumer l'objectif de cette revue, c'est justement d'arriver à tracer cette ligne de crête, cet équilibre, pour essayer de trouver le juste fonctionnement entre les deux.
Oui, oui.
Et le conservatisme, c'est, je ne sais pas moi, quand c'est Pascal qui dit nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants.
C'est ça
le conservatisme. C'est juste de reconnaître
l'héritage
extraordinaire et que tout ne s'invente pas par soi.
Les libéraux sont des fanatiques de l'héritage et de la transmission, etc.
Les libéraux ne sont pas des purs réactionnaires qui ne s'intéressent qu'au passé. Ils veulent éclairer l'avenir par le passé.
Oui, bien sûr.
Et donc, c'est un conservatisme qui doit se mêler de libéralisme dans sa relation avec l'État.
Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, par exemple, se disent conservateurs, mais être conservateur dans une société qui est très socialiste comme la société française... C'est quoi? Est-ce qu'il faut conserver la Sécu? Beaucoup de conservateurs disent que la Sécu, c'est, ça fait partie des c'est notre société, elle est comme ça, c'est le modèle social français, etc. etc.
D'ailleurs, j'avais rencontré Marine Le Pen qui m'avait répondu ça. C'est amusant.
Oui. Ah oui.
Dans un débat entre des chefs d'entreprise et Marine Le Pen, je lui avais posé cette question. Et je lui avais dit, mais vous savez, tout ce que vous proposez, en fait, nous, les entrepreneurs, on n'a pas du tout besoin de ça. Ce qu'on veut, c'est que l'État nous laisse tranquille, nous laisse travailler, qu'on nous enlève toutes ces normes, toutes ces obligations, toutes ces contraintes, tous ces boulets aux pieds. Et elle m'avait répondu, la France est comme ça, elle ne changera pas.
Oui, oui, c'est ça, voilà.
Mais ça m'avait vraiment scié.
Et c'est une forme de conservatisme. C'est beaucoup de gens se reconnaissent comme conservateurs dans le sens où ils ne veulent pas que les choses évoluent trop vite, ce qui est une attitude très saine. C'est-à-dire, enfin, comment dire, c'est très malin.
Hein, oui.
Un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras, comme me dit le dicton populaire. Mais parfois, ça crée une opposition quand même assez nette entre les positions libérales et les positions conservatrices.
Là, par rapport vous parliez de le conservatisme, il y a un élément essentiel. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je sens que la campagne est un peu en train de se orienter autour de ça, qui est l'héritage et la transmission.
Ah oui, bien sûr, oui.
Et on sent que beaucoup. Là, ils veulent taxer l'héritage, donc ça commence à.
Le sujet commence
à monter.
Oui.
Et ce qui est très intéressant, c'est que. Là, les conservateurs sont du côté de l'héritage. Ils sont pour pouvoir transmettre à ses enfants, ce qui est très favorable. Mais dans ce cas, ça devient incompatible avec la défense d'un système social qui endette les générations futures massivement.
Bien sûr,
qui, aujourd'hui, étrangle ceux qui travaillent et qui n'ont plus les moyens de vivre dignement pour pouvoir payer
ce modèle social.
Système social qui n'est pas viable.
Bien sûr, oui. On voit beaucoup aussi de conservateurs qui pensent que c'est le rôle de l'État de réguler ce qu'ils appellent les excès du marché, de flécher le comment ils appellent ça déjà, flécher les capitaux, etc. Enfin,
je me méfie toujours de ça.
Oui, moi aussi, terriblement. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est l'horreur. Enfin, quelqu'un qui parle de flécher les capitaux.
Après, je mettrai quand même une nuance sur le fléchage des capitaux. C'est que il faut pas être naïf.
Oui.
C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait qu'il fallait pouvoir être libre au niveau individuel et qu'il fallait que la nation soit aussi libre et souveraine.
Oui.
Et il y a certains éléments de souveraineté qui sont évidents et qu'il faut pouvoir dépendre.
Le doliprane, par exemple.
Le doliprane, certainement pas. Mais
je disais
le militaire,
provocation.
Mais le militaire, évidemment.
Oui, bien sûr.
Et il y a un ensemble de technologies duales. Vous savez, les technologies duales, c'est les technologies qu'on peut utiliser et en civil. Exemple, c'est De Gaulle, qui a, par un plan stratégique très clair, réussi à faire en sorte que la France soit dans le jeu des pays qui possèdent le nucléaire civil et militaire. Le nucléaire civil, on l'a piqué aux Américains. Et là, le fléchage devient intelligent. Et le fléchage devient même nécessaire à notre époque sur un certain nombre de technologies qui sont duales. Donc moi, je crois que l'État doit se désengager de tout ce qui ne le concerne pas. Et le Doliprane, c'est le meilleur exemple. Ou les verres Duralex. Mais Duralex, c'est une boîte qui fait des verres, qui s'effondre. Elle s'effondre parce que le coût de l'énergie est trop important, que le coût du personnel est trop important. C'est pas en réinjectant des fortunes que, en fait, on va continuer à en faire un champion.
Bien sûr.
L'État doit se désengager de tous les secteurs où il ne sert à rien et se concentrer sur les quelques secteurs où là, on a besoin d'État.
Pourquoi pas? D'accord, donc, mais alors, en tout cas, aujourd'hui, je crois que les deux perspectives libérales et conservatrices sont très très proches, parce que comme on vit dans une société qui est très très socialiste, évidemment, les intérêts des libéraux et des conservateurs sont de lutter contre ce socialisme. Je dirais, cette union, pour que les contradictions apparaissent, il faudrait être dans une société très libérale ou dans une société très conservatrice, ce qui n'est pas le cas, et je pense qu'il faudra que la revue Civilisation soit à peu près à son numéro 1000 pour que le problème puisse se poser, la société étant, à mon avis, socialiste pour encore un bon moment. Je pense que libéraux et conservateurs peuvent faire un bout de chemin ensemble.
Faut pas perdre espoir. On a un long article sur Milei dans notre numéro 1. Et par Bagus, qui est son biographe, et qui explique comment Milei a pris le pouvoir. Et Milei, il a pris le pouvoir en rendant le socialisme totalement immoral. En fait, il a fait une bataille morale, Milei. Il a expliqué aux jeunes, notamment, parce que c'est les jeunes qui ont pris le pouvoir en Argentine, qu'ils étaient en train de se faire écrabouiller par le socialisme, qu'ils étaient en train de se faire ruiner par le socialisme, et c'est eux qui se sont révoltés. Et là, on voit les résultats.
Alors, des interventions, un auditeur nous dit, un conservateur, c'est un libéral qui s'est fait agresser la veille. Auditeur, auditrice qui nous dit, la prétendue lutte contre la drogue en Occident est au mieux une demi-mesure. Si vous êtes libéral, vous pouvez appliquer les recettes de Singapour, citer État parfaitement libéral. Alors, bon, et qui sait comment traiter ce cancer, qui est probablement une des causes principales de la dégénérescence intellectuelle, avec la moitié des gamins qui ont déjà détruit leur cerveau avant 15 ans. Le libéralisme ne consiste pas à autoriser n'importe quoi, il ne peut survivre aux mafias qui doivent être éradiquées. C'est aussi simple que cela. Oui, alors...
C'est un peu une dictature, quand même.
Un peu une dictature, Singapour, quand même.
Mais en effet, c'est un modèle sur certains éléments.
Et puis, une auditrice nous dit, un peu hors sujet, mais face à la diffusion de l'islamisme en France, que pense votre invité des mesures annoncées sur le voile? Personnellement, je vois cela comme positif dans les sorties scolaires, à la fac et pour les mineurs. Pour le reste, on est libre de s'habiller comme on veut, tant que le visage est visible. Belle émission.
Moi, je suis tout à fait défavorable à ce que des femmes portent un voile intégral. Ouais. Si c'est la question, je ne sais pas.
Oui,
si
c'est la, enfin, la question tourne un peu autour de ça. C'est une question de
façon que nous n'aurons pas dans les sorties scolaires.
Le temps de traiter, voilà, puisque nous arrivons un petit peu au terme de cette émission. Alors, je rappelle, mon invité était Bertrand Picard, entrepreneur et fondateur de la revue Civilisation, qui sera en kiosque, c'est ça, dès le 1er octobre.
1er octobre en kiosque, il est possible de s'abonner dès maintenant sur civilisation.media et bénéficier d'une remise de 20%.
Voilà, et en tout cas, ça risque d'être absolument passionnant. J'ai hâte de la tenir entre mes mains et de lire tous les articles passionnants dont je n'ai pas, on ne les a pas cités, mais vous pouvez trouver ça sur civilisation.media.fr.
Ouais, sur civilisation.media, .media. On ne rajoute pas de .fr.
Point media. Ouais. Voilà. Très bien. Quoi d'autre? Non, c'est à peu près tout sur civilisation. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter peut-être sur le sujet de...
Oui, ce que je peux rajouter déjà, c'est les prochains thèmes qu'on traitera. Donc,
très bien.
Parce que là, on va parler de l'État, mais nous, nos autres grands sujets, c'est évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'économie et à la technologie.
Oui.
Et donc, dans la revue, on met une grande place à l'économie et à la technologie, aux entrepreneurs.
Oui.
Pour vous prendre deux exemples, dans le numéro 1, on a fait un débat sur l'IA, parce que l'IA, c'est vraiment un sujet complexe.
Oui.
Entre d'un côté le fondateur de Mistral, Charles Gorantin, et de l'autre Abel Quentin, qui est un écrivain anti-IA et qui n'a jamais utilisé l'IA et qui écrit contre l'IA. Et on les fait débattre, et je vous assure, le débat est vraiment passionnant.
Bon, très bien, parfait. Alors, Civilisation, j'appelle Civilisation, nouvelle revue, Civilisation sans S, Civilisation au singulier. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je remercie tous nos auditeurs. Merci pour vos nombreuses questions et commentaires. Merci à mon invité Bertrand Picard. Le thème de l'émission, je le rappelle, que nous n'avons pas vraiment traité, était État français, un rapport qualité-prix qui s'effondre. Enfin, disons, ce sera traité dans le numéro Un coup d'État, COU, accent circonflexe T. Je remercie Benoît à la réalisation, je remercie Jean-Loup au secrétariat, tous les bénévoles de Radio Courtoisie, je remercie Lisa Hersi qui m'a aidé à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous le 30 septembre avec Sophie de Menton pour parler des entreprises. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des économistes, créé par Jacques Garello et dirigé par Olivier Mérès, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 2 septembre 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix fonds de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.